Daniel chapitre 11, versets 45 et chapitre 12, verset 1. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat. Puisse le Seigneur vous bénir et nous accompagner pendant cette heure de méditation. Il s'agit de la deuxième partie de notre message intitulé « Les présages d'Armageddon ». Les présages d'Armageddon. Cette deuxième partie a cette fois à voir et porte cette fois sur un autre élément de ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 16 verset 12 à 16 sur lequel nous avions porté notre attention la dernière fois, mais en nous concentrant la dernière fois tout particulièrement sur le verset 15 dans lequel Jésus nous appelle à veiller parce qu'il vient comme un voleur. Donc, nous avons vraiment bien pu prendre le temps de considérer le sens de ces paroles de Jésus en lien avec son annonce, cette prévision dans Matthieu chapitre 24 où il annonce encore une fois sa venue comme la venue d'un voleur dans la nuit, et ces paroles de 1 Thessaloniciens chapitre 5, il me semble, dans lesquelles nous voyons également qu'il nous est dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur dans la nuit. Et donc, en conclusion de cette étude, nous avons bien pu voir à travers la parole de Dieu que ce retour comme un voleur que Jésus annonce à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, ce n'est pas son retour physique, là où tout œil le verra, comme nous avons vu dans Apocalypse chapitre 1, mais plutôt son retour invisible, là où il vient en roi des rois et en seigneur des seigneurs, étant revêtu d'un manteau et étant habillé comme rouge de sang et venant fouler les nations, ou plutôt les gouverner comme avec un sceptre de fer. Nous avions vu cela la dernière fois, tout particulièrement dans Apocalypse chapitre 19. Et donc nous avons bien vu que cette activité-là de Jésus n'est pas son retour physique, mais plutôt son retour invisible, là où il vient orchestrer la destruction des nations dans Armageddon. C'est ce que nous avons vraiment pu prendre le temps de comprendre, et c'est la conclusion à laquelle nous avons pu arriver à travers la comparaison des différents passages de la parole de Dieu qui ont trait avec ce concept de la venue et du retour de Jésus comme un voleur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, à cause de la mécompréhension de ces versets-là, qu'il y a beaucoup aujourd'hui de dénominations, de confessions religieuses dans le christianisme, qui croient qu'il va y avoir ce qu'ils appellent l'enlèvement, et qui justifient cette croyance, l'enlèvement avant ce qu'ils appellent la tribulation, mais que nous comprenons comme le temps des sept dernières plaies. Ils croient en un enlèvement parce qu'ils lisent ces paroles de Jésus qui dit qu'il viendra comme un voleur et ils relient cela aux paroles de Thessaloniciens qui dit que nous monterons dans les airs. Et donc il y a un amalgame de toutes ces choses-là et tout est mélangé et ensuite il y a la confusion et ensuite nous croyons que nous allons être ravis dans le ciel avant que la terre subisse toutes ces destructions des sept dernières plaies. Mais donc nous avons bien pu voir à travers notre méditation de cette merveilleuse parole de Dieu et du Seigneur qu'il ne s'agit pas d'un ravissement auquel Jésus fait allusion dans ces paroles-là, mais bel et bien de sa venue avec les armées du ciel pour orchestrer. Parce que c'est d'ailleurs bien ce qui était écrit dans l'esprit de prophétie où il est dit que la providence de Dieu aura un rôle à jouer dans la bataille d'Armageddon. Cela ne veut dire que ce que cela veut dire. C'est-à-dire que la providence de Dieu, Dieu dans sa providence, c'est-à-dire dans son orchestration des événements terrestres, aura un rôle à jouer. À savoir, Dieu orchestrera. C'est ça que cela veut dire, la providence de Dieu. Et donc, cela met véritablement à bas cette idée selon laquelle Armageddon, c'est simplement un combat spirituel qui est né du sein d'un adventisme qui avait déjà commencé à s'éloigner des piliers de l'adventisme primitif. Mais les adventistes, les pionniers du mouvement des trois anges, enseignaient qu'Armageddon est bel et bien un combat militaire, physique et littéral qui aura lieu dans la vallée de Jézréel, au pied de la montagne de Megiddo. Donc ça, nous avons pu contempler cela, surtout sur le premier retour invisible de Jésus dans notre dernière étude. Mais dans notre étude d'aujourd'hui, pardon, nous voulons contempler la partie du verset 12 où il est question d'un élément déclencheur. Et donc nous voulons nous poser la question, frères et sœurs, de savoir quel sera le signal par lequel l'étudiant des prophéties pourra reconnaître la fin du temps de grâce et la préparation vers Armageddon. Quel sera le signal par lequel l'étudiant de la prophétie pourra reconnaître cela? Et quel sera l'élément déclencheur du temps de détresse et du commencement des sept dernières plaies? Hein? Quel sera l'élément déclencheur? Quel est l'élément déclencheur que la prophétie nous présente comme étant celui qui va induire le temps de détresse et le commencement des sept dernières plaies. Quel est ce signal et quel est cet élément déclencheur? Est-ce que la parole de Dieu nous présente cela? Est-ce que la parole de Dieu nous présente cet élément déclencheur et ce signal? C'est ce que nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, examiné. Je vous invite à vous tourner vers les paroles d'Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16, une fois de plus. Nous allons aujourd'hui repasser sur les choses que nous avons lues la dernière fois. Mais cette fois-ci, en nous concentrant sur un autre élément en particulier. J'y fais allusion très brièvement la dernière fois, mais aujourd'hui, nous allons prendre le temps de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'examiner et le comprendre de manière intelligente à travers d'autres versets dans la parole de Dieu. Lisons-le dans Apocalypse chapitre 16, verset 12 jusqu'à 14 et ensuite verset 16, parce que nous avions vu le verset 15. Je lis. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Et donc, mes frères, qu'est-ce qui déclenche la sixième plaie, et à savoir Armageddon? Comment est-ce que ce passage commence qui a trait à cette sixième plaie? Au verset 12, il est écrit « Le sixième ange hein, » parce qu'au verset 10 jusqu'au verset 11, il était question du cinquième ange. Ensuite, au sujet du sixième ange, nous lisons le sixième ange, et de la sixième plaie, nous lisons, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Que se passe-t-il, mes frères? Que se passe-t-il ici? Sur quoi est-ce que le sixième ange verse sa coupe? Sur le grand fleuve de l'Euphrate, et l'eau du grand fleuve de l'Euphrate est séchée, ce qui, à sa suite, prépare la voie pour les rois de l'Orient. Et donc, la phrase est ça, nous voulons comprendre. Quelle est la signification de cette expression prophétique? Quelle est la signification de cette expression prophétique? S'agit-il d'une activité littérale ou bien d'un changement symbolisé par ce tarissement du fleuve? Est-ce une activité littérale ou est-ce un changement symbolique? Pour aborder brièvement la considération sur le côté littéral, nous pouvons dire d'une part que comme le frère Uriah Smith, le pionnier adventiste, le disait, il y a eu de nombreuses armées qui sont venues en Palestine à travers les années, et jamais le fleuve de l'Euphrate n'a posé un problème pour eux. Donc de toute évidence, d'ailleurs nous voyons très bien cela lorsque les Mèdes et les Perses sont venus envahir Babylone. Ils ont pu, de par leur propre force, de par leur propre moyen, dévier le fleuve de l'Euphrate afin de pouvoir passer dans le lit qui n'avait plus son eau et qui avait donc été asséché et tari afin de pouvoir rentrer dans la cité de Babylone et envahir Babylone de l'intérieur parce que les portes avaient été laissées ouvertes, parce que, si je ne m'abuse, Belshazzar était trop concentré sur ses orgies pour pouvoir s'inquiéter de la sécurité de sa ville. Et donc vraisemblablement, l'histoire nous montre que l'eau soit là ou qu'elle ne soit pas là, cela n'a jamais réellement représenté un réel problème pour une armée pour traverser. Ce n'a jamais été un obstacle. Donc de toute évidence, cette idée qu'il s'agirait du fleuve littéral n'a pas de sens parce que l'eau soit là ou qu'elle soit asséchée, cela n'empêcherait pas des armées de le traverser. Et donc, cela nous dirige tout de suite vers la compréhension que ces paroles ont un sens symbolique. Et pour cela, nous vérifions cela, qu'il ne s'agit pas simplement de notre idée pondue de notre intellect. Nous nous tournons pour cela dans les paroles d'Ésaïe chapitre 8. Et dans Ésaïe chapitre 8, versets 7 à 8, où nous voyons ici le symbolisme biblique du fleuve. Quel est le symbolisme biblique d'un fleuve? Je le lis ici dans Ésaïe chapitre 8, verset 7. À cause de cela, voici le Seigneur va faire venir sur eux les eaux du fleuve, grandes et fortes, le roi d'Assur et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra par-dessus toutes ses rives. Il passera sur Juda, il débordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou et ses ailes étendues rempliront la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Vous voyez quelque chose? Que représentent ici les eaux du fleuve? Hein, il est écrit, le Seigneur va faire venir sur eux les eaux du fleuve grandes et fortes, virgule. Quelle est l'identification? Quelle est la signification? Quel est le parallèle qui est donné ici, comme vous savez, dans les passages hébreux, les passages de la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, il y a souvent ces répétitions et ces mises en parallèle de termes, de telle manière que souvent la parole de Dieu nous donne des mots synonymes en les mettant les uns à côté des autres. Et ici, vous avez un exemple typique de cela où il est écrit les eaux du fleuve grandes et fortes, virgule, qu'est-ce que c'est? Le roi d'Assur et toute sa gloire. Donc, est-ce que vous comprenez? Le roi d'Assur, qu'est-ce que c'est? C'est l'Assyrie. Et toute sa gloire, qu'est-ce que c'est? Toute sa puissance militaire. Hein? Vous le voyez? Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra par-dessus toutes ses rives. Où est-ce qu'il ira comme cela? Il passera sur Juda. Qu'est-ce que c'est? La puissance. Ce n'est pas juste le roi. Ça ne veut rien dire si c'est juste le roi. Qu'est-ce que c'est si c'est juste sa gloire? Juste sa gloire, quelque chose de moral, ça ne veut rien dire. Sa gloire, c'est sa puissance. Et sa puissance pour passer sur un pays, c'est son armée. Vous le voyez ici? Il passera sur Juda, il débordera, il inondera. Vous avez ce symbolisme d'un fleuve qui déborde et qui inonde un pays. Et ici, il s'agit de cette puissance qui déborde dans sa fureur et sa violence et qui inonde un pays de part comme une invasion militaire. Vous voyez cela? Il inondera, il atteindra jusqu'au cou. Hein, vous voyez un débordement vraiment de toute la terre où vous avez 1,50 m d'eau sur toute la terre. C'est l'idée, c'est l'image qui nous est donnée. Et ses ailes étendues rempliront la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Assur, le roi Assur, le roi d'Assur, et toute sa gloire. Et nous savons d'ailleurs dans l'histoire que c'est bien la Syrie qui est venue envahir le territoire de l'Israël, des 10 tribus, l'Israël du Nord, qui était rempli d'idolâtrie, et donc qui est ensuite devenue la Samarie. Il y a eu cet amalgame répété et prolongé des 10 tribus, jusqu'à ce que les seules tribus qui restent soient véritablement que Juda et Benjamin. Et ici, même, il passe sur Juda et il attaque jusque au cœur de la ville. C'est le fleuve. Les eaux du fleuve, grandes et fortes. Et donc, maintenant que nous venons bien de voir que un fleuve et ses eaux, ce sont un symbole. Si donc le débordement d'un fleuve est le symbole biblique d'une invasion militaire, que symbolise le tarissement des eaux d'un fleuve? Hein? Dans ce verset d'Ésaïe chapitre 8, versets 7 à 8, il s'agit ici d'un débordement. C'est une attaque d'un pays contre un autre. De la Syrie avec son armée contre Juda et sa puissance, sa faiblesse. Il s'agit d'un débordement. Mais si le débordement d'un fleuve, c'est symbolique d'une invasion militaire, que symbolise le tarissement, l'assèchement des eaux d'un fleuve? C'est l'inverse. Il y a le débordement, et maintenant, nous sommes confrontés dans notre examen de la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 16, verset 12, un tarissement. Nous venons de voir le débordement, mais quel est le tarissement? N'est-ce pas le tarissement où l'affaiblissement ou l'extinction de la puissance militaire représentée par ce fleuve. Donc ici, ces eaux du fleuve, cela représentait la Syrie. Mais quelle est donc cette nation qui est représentée dans ce verset d'Apocalypse chapitre 16, verset 12, par le fleuve de l'Euphrate? Quelle est cette nation que le fleuve de l'Euphrate représente et symbolise? Quelle est-elle? Eh bien, mes frères et sœurs, si vous regardez sur une carte, vous voyez très vite que l'Euphrate a toutes ses sources, toutes, je dis bien toutes ses sources, en Turquie. Ces deux rivières principales ont leur source dans les montagnes turques et ces trois affluents syriens ont eux trouvé aussi leur source au sud de la Turquie. Et ensuite, l'Euphrate traverse, le fleuve de l'Euphrate traverse la Syrie d'un côté, à l'ouest, et l'Irak au sud-est, ce qui par lequel il trace clairement, à travers son parcours, le cœur de l'ancien empire ottoman. Si vous regardez le grand fleuve, ce grand fleuve de l'Euphrate dont l'Apocalypse nous parle, vous voyez que son trajet trace directement et sans l'ombre d'un doute ce qui était autrefois le territoire, le cœur du territoire appartenant à l'Empire ottoman. Et donc pour conclure cette partie de notre méditation, nous employons les paroles d'Uriah Smith, hein, ce fameux frère pionnier adventiste, dans son livre Daniel et l'Apocalypse, ou en anglais Daniel and the Revelation, où il dit que ce verset d'Apocalypse chapitre 16, verset 12, je cite, doit être compris au sens figuré comme symbolisant la puissance qui détient le territoire arrosé par ce fleuve, à savoir l'Empire ottoman ou turc. Je répète, il dit que ce verset, entre guillemets, doit être compris au sens figuré comme symbolisant la puissance qui détient le territoire arrosé par ce fleuve, à savoir l'Empire ottoman ou turc. Et donc, le fleuve de l'Euphrate commence en Turquie, traverse la Syrie, puis traverse l'Irak et vient se déverser dans la mer. Donc la Turquie, d'accord, mais l'Empire ottoman, avant, il englobait beaucoup plus que ce que la Turquie est aujourd'hui. Donc nous posons la question, mais qu'en est-il du reste des territoires qui sont arrosés par ce fleuve qui a sa source dans les montagnes turques? Qu'en est-il du reste de la Syrie et de l'Irak et de tout le reste dont nous allons, au sujet desquels nous allons brièvement lire? Qu'en est-il? Qu'en est-il si c'est si ce grand fleuve de l'Euphrate, représenté du temps des Adventistes, dans les années 1900, le territoire de l'Empire ottoman, l'Empire turc, qu'en est-il maintenant, après que cet empire ait été dissolu et qu'il y ait eu une émergence de nombreuses nations qui ont demandé et trouvé leur indépendance? Qu'en est-il maintenant? Comment comprendre cette partie-là? Pour cela, j'aimerais attirer votre attention vers un élément très intéressant de la parole de Dieu que beaucoup ne comprennent pas du tout, pas du tout, pas du tout, et qu'il nous faut vraiment saisir, mes frères et sœurs, pour avoir une compréhension intelligente des paroles d'Apocalypse par laquelle notre façon notre entendement sur les déclarations inspirées prophétiques de l'Apocalypse sera bien plus profond, bien plus élargi, bien plus significatif que celui qui est généralement épousé, qui est si superficiel, mes frères et sœurs, même parmi un grand nombre d'adventistes. Ça me fait mal au cœur, cette compréhension si superficielle de l'Apocalypse et de ces moments qui ont tellement trait aux dernières scènes dans lesquelles nous sommes appelés à affermir notre vocation et notre salut. Dans Ésaïe chapitre 21, versets 16 à 17, nous lisons des choses très très intéressantes qui nous manqueront pas de susciter notre intérêt ici. Et notre curiosité accrue pour comprendre l'Écriture et comprendre la complexité de la parole de prophétie et la parole prophétique qui nous est donnée comme une lumière pour éclairer notre sentier. D'autant plus en ces derniers jours où il y a tellement d'obscurité. Ésaïe chapitre 21, versets 16 à 17. Écoutez ici la parole de l'Éternel. Je lis. Car ainsi m'a dit le Seigneur. Encore une année comme les années d'un mercenaire. Et toute la gloire de Kédar prendra fin. Et le nombre des vaillants archers, fils de Kédar, sera réduit à un faible reste, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Oh, qui est Kédar? La gloire et toute la gloire de Kédar prendra fin. Si vous regardez sur une de ces fameuses cartes des années 1840, si je ne m'abuse, vous voyez que Kédar est placé juste à l'est de la Palestine et des anciens territoires d'Ammon et de Moab et d'Édom, juste sur la partie nord-ouest de l'Arabie saoudite. Et Kédar, si vous regardez dans l'histoire généalogique, ce n'était autre que l'un des fils d'Ismaël. Et donc, historiquement parlant et géographiquement parlant, Kédar n'est autre que le monde arabe. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce qu'il est écrit, je lis, encore une année comme les années d'un mercenaire et toute la gloire de Kédar prendra fin. Hein? Qu'est-ce que nous avons lu? Dans Apocalypse chapitre 16, verset 12, que le sixième ange verserait sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et que son eau s'assécherait pour préparer le chemin des rois de l'Orient ou de l'Est. Et là, il est question de toute cette gloire de Kédar qui prendra fin. Et nous avons lu, juste avant, dans notre passage clé pour comprendre le symbolisme biblique du fleuve et d'un fleuve, qui est d'Ésaïe chapitre 8, versets 7 à 8, que les eaux fortes, grandes et fortes d'un fleuve arriveraient, et ce serait le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Et là, il est question de Kédar, qui n'est autre que le monde arabe, présenté dans la parole de Dieu, qui prendrait fin, toute sa gloire qui prendrait fin, en combien de temps? En combien de temps? Encore une année. Quel genre d'année? Est-ce une période prophétique? Non, parce qu'il est précisé comme les années d'un mercenaire, à savoir comme les années d'un ouvrier, comme une année de travail littéral. Ce n'est pas un chiffre symbolique ou prophétique, c'est une année littérale, et cette année littérale trouve son parallèle symbolique dans Apocalypse chapitre 18 et verset 8, où au sujet de la chute de cette grande Babylone, nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, verset 8. Où il est écrit, c'est pourquoi ces plaies, les plaies de Babylone et de toutes ces présence, tous ces rois de la terre qui ont commis fornication avec elle, toute cette destruction, cette conflagration rassemblée de cette grande coalition du dragon, de la bête et du faux prophète, et de tout ce qui va avec, il est écrit, c'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour. Et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu, qui la juge, est puissant. Ensuite, il est question de ces les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront parce qu'ils feront partie de cette destruction. Ils souffriront avec elle. Quand? Pendant ces plaies, quelles plaies? Les plaies d'Apocalypse chapitre 16, au sujet desquelles nous sommes en train de nous concentrer sur la sixième. Voyez, et en combien de temps auraient lieu et auront lieu ces plaies? En un même jour. Et certainement, ça ne peut pas être un jour littéral parce que ce n'est pas suffisant pour que toutes ces choses aient lieu. Et donc, il ne peut s'agir que d'un jour prophétique. Et nous savons dans notre compréhension de la prophétie que si ce n'est pas un jour littéral, mais que c'est un jour prophétique, eh bien ça ne peut être que un an, à savoir une année littérale. Comment? Comme les années d'un mercenaire, comme c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 4 et verset 6, où il est écrit Dieu parlait à Ézéchiel vis-à-vis de ces choses qu'il lui donnait de faire comme un symbole et une représentation au peuple de son temps pour avertir les hommes des jugements que Dieu permettrait de tomber sur eux. Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Qu'est-ce que cela symbolisait? Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Vous voyez donc le parallèle littéral prophétique? Il est écrit que dans Ésaïe chapitre 21, verset 16, j'y reviens. « Encore une année, m'a dit le Seigneur, comme les années d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar prendra fin. » Quelle gloire? De la même manière que la Syrie avait pour sa gloire sa puissance militaire, ce que nous avons conclu, parce que cela ne peut être que ça. Il s'agit ici de Kédar et toute sa gloire, toute sa puissance militaire. Qui est Kédar? Nul autre qu'un terme englobant toute la réalité du peuple et du monde arabe au dernier jour. C'est le mot que la Bible utilise parce qu'elle ne pourrait utiliser un mot plus large pour faire allusion au fait qu'il s'agit d'un gigantesque amalgame du monde arabe. La parole de Dieu ne pourrait utiliser un mot plus large encore. Et encore, elle le fait, parce que vous le voyez dans le psaume 120. Dans le psaume 120, verset 5. Versets 5 à 7. Vous voyez ici le psalmiste David qui s'exprimait en lien direct avec les dispositions de ces hommes de Kédar et de Méchec. Et le contraste qu'il avait constaté entre lui-même et eux. Je lis dans le psaume 120, versets 5 à 7. « Malheureux, dit-il, que je suis de séjourner en Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Trop longtemps, mon âme a demeuré avec celui qui est la paix. Je veux la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Vous voyez ici, David, qui est de la lignée hébraïque, David dit, trop longtemps, mon âme a demeuré avec celui qui est la paix. David dit, les hommes de Méchec et les hommes de Kédar, ils ne veulent que la guerre. Il dit, je veux la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et n'est-ce pas ce que nous avons vu à travers cette dernière centaine d'années, disons, on va faire plus court, à travers les 70 dernières années depuis, la nouvelle indépendance retrouvée d'Israël en 1948, ce conflit permanent entre les Juifs et le monde arabe, parce qu'il ne s'agit pas juste de la Palestine, c'est les Juifs et le monde arabe, c'est cette friction. Pourquoi? À cause de ces choses que le psalmiste, il disait que David, le roi de Jérusalem, disait, il disait, je veux la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est ce que nous voyons depuis de nombreuses décennies. C'était exprimé dans ces paroles inspirées de l'homme, du psalmiste du Seigneur. Et ici, il fait une comparaison de termes, ici, encore une fois, ce genre de parallèle dont je parlais. Eh bien, mes frères et sœurs, si vous regardez une carte, encore une fois, je l'ai dit pour Kédar, mais si vous regardez une carte, Méchec, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Et Kédar, comme je l'ai dit, ce n'est autre que tout le peuple, tout le monde arabe. Que ce soit l'Arabie Saoudite et tous ces acolytes à l'Est, après l'Égypte, l'Algérie, etc., etc. La liste est très longue, l'Azerbaïdjan, peut-être l'Iran, je ne sais pas, Pakistan, l'Ouzbékistan, Kirghizistan, Turkménistan, la grande largeur de ce mot Kédar, combien elle est, quelles sont les limites de cette expression, le temps le dira suffisamment tôt. Mais quoi qu'il en soit, la parole de Dieu assimile ici Kédar à Méchec et nous fait ainsi comprendre que la destruction de la Turquie entraînera toute la puissance coalisée du monde arabe. Et ce vide politique et militaire en Asie mineure aura pour effet d'aspirer à la fois les rois de l'Orient et les rois de la terre et du monde entier au point géopolitique clé qui n'est autre que la Palestine. Hein? Lorsque la Turquie, la parole de Dieu, en comparant et en assimilant et en mettant au même pied d'égalité Méchec et Kédar, elle nous montre, Dieu nous montre à travers ces paroles-là, le lien direct qu'il y a entre les sources symboliques de ce grand fleuve de l'Euphrate et tous les territoires à travers lesquels ce fleuve passe, à savoir la Syrie, l'Irak, mais aussi tous les autres territoires qui comprenaient à cette époque, qui a compris pendant de nombreux siècles, les territoires de l'Empire ottoman. Et à travers ce lien-là, la parole de Dieu nous fait comprendre que la destruction de la Turquie entraînera aussi avec elle, pas juste elle, mais toute la puissance coalisée du monde arabe. Et si vous voulez rechercher cela, ne serait-ce que très brièvement, vous n'avez qu'à rechercher l'organisation à faire une recherche sur, je cite, l'organisation de la coopération islamique, qui est un, comme le mot le décrit, une organisation qui rassemble tous les pays de confession musulmane, et cette organisation compte à ce jour 57 États membres. Et c'est intéressant de noter que, si je ne m'abuse, les deux dernières rencontres mondiales ont eu lieu en Turquie. Et nous savons, à travers les nombreux efforts récents depuis les explosions et toutes les attaques de l'État islamique pendant les années du passé, avant que ce soit calmé, que la Turquie a été très très active dans ses efforts vers une augmentation de cette coalition. C'est ce que l'histoire très récente nous montre, et ainsi elle nous montre encore une fois et nous confirme le lien étroit entre Meshech et Kedar. Malheureux, disait David, que je suis de séjourner en Meshech, de demeurer parmi les tentes de Kedar. N'est-ce pas aujourd'hui exactement la condition, la position du peuple israélien en Palestine? Il séjourne, pour ainsi dire, en Meshech, et il demeure au beau milieu des tentes de Kedar. Trop longtemps, mon âme a demeuré avec celui qui est la paix, disait David. Je veux la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Ils ne veulent que la guerre. Je ne fais que lire. Et pour conclure aujourd'hui, frères et sœurs, notre méditation, j'aimerais attirer votre attention vers un passage très important de notre lecture biblique. Nous avons lu la conclusion de ce passage auquel j'aimerais ici attirer votre attention. Ce n'est autre que le passage de Daniel chapitre 11, versets 40 à 45. Daniel chapitre 11, verset 40 jusqu'au verset 45. Alors ici, c'est assez particulier. Assez particulier, tout autant dans le monde francophone que dans le monde anglophone, mais plus particulièrement encore dans notre monde anglophone qui est si limité en ressources. Et malheureusement, mes frères et sœurs, je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir vraiment vous appuyer pour la compréhension du chapitre 11 de Daniel sur de nombreuses versions de la Bible. Je ne pense pas que la Bible Second de 1910 sera d'un grand secours, malheureusement. Les plus récentes de Second encore moins. J'aurais tendance à encourager la lecture de la Bible Osterwald, mais pour la compréhension totale du chapitre 11 de Daniel, je vous encourage à vous procurer notre série sur Daniel chapitre 11, qui explore chaque verset un à un et qui a été composé directement en harmonie avec ce que les pionniers enseignaient, de manière à être sûr que chaque verset est semblable aux versets tels qu'ils sont présentés dans la Bible King James en anglais. Je le répète, je ne peux pas vous certifier que vous serez dans la bonne, comment dire, que vous aurez une grande assurance en lisant la Bible second sur ce chapitre. C'est très parsemé et il y a beaucoup de confusion dans la manière dont ils ont été transcrits. Donc ceci étant dit, maintenant, j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement vers les versets 40 à 45. Et ici, l'esprit de prophétie nous a donné un repère par lequel nous pouvons comprendre cette fin du verset sans avoir à forcément commencer par le verset de ce chapitre 11, sans avoir à forcément commencer par le verset 1. Et la manière dont nous pouvons faire cela, c'est en prenant en compte les versets 37 à 39 auxquels l'esprit de prophétie fait référence comme étant le passage qui parle de la France, de la puissance de la France, et notamment de la France sous la Révolution française. Nous le lisons au verset 36 de Daniel chapitre 11. Brièvement, le roi fera tout ce qu'il voudra, et il s'enorgueillera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Il proférera des choses étranges contre le Dieu des dieux. Et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est décrété sera exécuté. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais à la place, il honorera le Dieu des forteresses. Il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec les choses les plus désirables un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Et il agira ainsi dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. À ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire, il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Donc je ne vais pas prendre le temps ici de vous montrer à quel point ces paroles ont été accomplies par la France à travers les temps de la Révolution française, mais il suffirait juste ici de mentionner le fait que jamais une puissance dans le monde n'a fait ce que la France a fait du temps de la Révolution française, à savoir, où il était écrit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Alors, la Révolution française a complètement aboli la religion, il brûlait les Bibles, et il y avait tout particulièrement un mépris des liens du mariage, de la relation maritale et du contrat de mariage. C'est lors de la Révolution française que le concubinage a éclaté. Et à travers cette Révolution française, que le concubinage, cette pratique du concubinage a éclaté de manière exponentielle à la fois à travers la France et après, bien sûr, vous savez, c'est comme les cercles quand vous lancez un caillou dans l'eau. Après, les cercles vont de plus en plus loin. Les répercussions de la Révolution française n'ont cessé de se faire ressentir à travers le monde entier depuis ces moments précis de ce roi, hein, qui est présenté comme un roi, mais en fait qui n'était en aucun cas un roi. Mais la parole de Dieu n'avait aucun autre moyen pour parler d'une puissance si exceptionnelle et qui était tellement sans précédent dans sa manière de fonctionner parce que la Révolution française n'avait pas de tête et au final ils ont fini par couper les têtes. Donc c'est très fascinant la manière dont ces versets accomplissent de si près tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé dans les moments tragiques et solennels qu'ont caractérisé cette révolution dans le pays des Gaulois. Et cela n'avait jamais été fait avant parce que il était écrit que il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes, il n'aura égard à aucun Dieu. Et d'ailleurs, par contre, il est écrit que il honorera avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, avec les choses les plus désirables, un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Il y a eu un culte du Dieu de la déesse de la raison qui a été érigée, qui n'a duré que très peu de temps parce que cela n'était pas cohérent, cela ne faisait pas vraiment de sens, mais ça a quand même eu lieu de telle sorte qu'il y a quand même eu ce culte, il y a quand même eu ce semblant de religion qui n'en était pas une. C'était comme c'est écrit, un Dieu que n'avaient pas connu ses pères. Ça n'était absolument jamais entré dans leur tête parce que, ayant aboli l'Église catholique, ils ont essayé de remplacer d'une certaine manière, sans vouloir vraiment remplacer quoi que ce soit, par ce culte de la déesse de la raison qui était une grande absurdité, mais qui était suffisamment fort dans son sens prophétique pour avoir été couché sur le papier de la parole de Dieu. Profond. Il était écrit que à ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que ceux qui étaient prêts à porter le flambeau de la Révolution française se voyaient attribuer des cantons, pour ainsi dire. Et il leur était donné de diriger sur ces parties de la France. Et c'est comme ça que la Révolution française a pu, parce que ceux à qui était donnée cette autorité, ben, ils avaient à leur tour l'autorité de faire tout et n'importe quoi, de couper les têtes de l'opposition quand il y en avait, des partisans de la monarchie et des prêtres, etc., etc. C'était l'histoire, et c'est encore heureux que l'histoire ne soit pas si facilement accessible pour nous. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'ils nous donnent réellement l'histoire de la Révolution française dans nos cours d'histoire pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi il s'agissait, que ce n'était pas toutes les merveilles dont on nous avait parlé, que ce n'était absolument pas cela. Alors peut-être on aurait compris que la Marseillaise, ce n'était pas un chant si glorieux que ça, après tout. Il honorera le Dieu des forteresses, de la folie des grandeurs jusqu'à ce que les têtes et le sang coulent. C'était la grande folie du diable. Et il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Exactement, à la lettre, c'est exactement ce qui se passait. Bref, tout cela pour dire que les versets 36 au verset 39 parlaient indéniablement de la France au temps de la Révolution française. Ça ne parlait pas vraiment du roi, je ne me souviens plus de son nom, de la monarchie, parce que il était impuissant, totalement impuissant, sous le joug des révolutionnaires. Mais maintenant, ce qui est très intéressant pour nous, en ces derniers jours, ce sont les versets 40 à 45. Donc je vais essayer d'expédier cette chose-là, mais c'est quand même très important. Donc je vais prendre le temps de passer sur chaque verset pour que nous puissions vraiment cerner. Les choses que je vous présente aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce ne sont autres que les... qu'un résumé très très condensé des vérités qui étaient présentées par les pionniers de l'Église adventiste et notamment dans ce livre de Uriah Smith, Daniel et l'Apocalypse, qui avait été préconisé par Sir White, l'Esprit de prophétie, avec une grande intensité comme le livre qui devait être présenté au peuple de Dieu et qui devait être dans tous les foyers pour être le soutien du ministre de l'Évangile et de l'ouvrier biblique afin qu'ils comprennent les vérités de la prophétie. Mais aujourd'hui, ce livre a été tout d'abord remanipulé et ensuite abandonné. De telle sorte que maintenant, ils enseignent des choses qui sont complètement contraires à ce qui était cru et épousé par les pionniers de l'Église adventiste d'antan. Aujourd'hui, ils disent la bataille d'Armageddon, c'est un combat spirituel. Il était écrit dans ce livre, Daniel and the Revelation, que c'était un combat littéral. Aujourd'hui, ils disent toutes sortes de choses qui sont complètement contraires, et c'est ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui. Au verset 40, il est écrit, donc nous venions de lire au sujet, à partir du verset 35, au sujet de la France. Il était question indéniablement de la France. L'esprit de prophétie cite un de ces versets-là, je crois que c'est le verset 36, et parle ensuite de la France. Donc nous n'avons aucun doute sur cette question. Ensuite, les questions d'autre chose. Je lis. Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, hein, contre lui, ce roi dont il avait été question avant, contre la France. Le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Il entrera dans le pays de gloire et plusieurs pays succomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Il étendra sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Alors, mes frères, vous comprenez? Verset 40, il est écrit que au temps de la fin. Quand est le temps de la fin? Est-ce que le temps de la fin ne serait pas par hasard en 1798? Nous savons cela à travers notre compréhension de l'esprit de prophétie que au temps de la fin, c'était la fin de la suprématie papale, la fin de cette période de suprématie papale des 1260 ans. En tant qu'adventiste du septième jour, c'est une période clé, période prophétique clé qui ouvre la voie à toute notre compréhension suivante des prophéties. Eh bien, en ce temps de la fin, nous est-il dit, le roi du Midi ou du Sud, hein, le Midi, c'est au Sud, le roi du Midi se heurtera contre la France, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Alors, ayant déjà cette compréhension de la France comme étant celui dont il est question ici au verset 40, il ne nous reste qu'à faire un examen de l'histoire pour savoir où était la France en 1798, que nous connaissons déjà comme étant cette période du temps de la fin. Où était la France à ce moment-là? Et en faisant cet examen, en tant qu'étudiant de la prophétie, nous arriverons à conclure quel est le sens de ces paroles. Eh bien, mes frères et sœurs, à votre grande surprise, nous trouvons que au début du mai, au début du mois de mai de 1798, le directoire de France donna l'ordre, ou plutôt l'accord, à Napoléon Bonaparte de lancer une expédition pour l'Égypte afin de couper la route du commerce vers l'Angleterre. En mai 1798, le 23 mai 1798, l'expédition pour l'Égypte quitta le port de Toulon avec Napoléon à sa tête. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Le 7 juillet 1798, la ville d'Alexandrie fut prise. Le 23 juillet 1798, toujours la même année, la bataille décisive des pyramides a eu lieu contre les Mamelouks, je crois qu'on dit ça. Le 24 juillet, Bonaparte entre avec son armée dans le Caire, en Égypte. Hein. Ensuite, donc, pendant toute cette période-là, il y avait l'Égypte qui faisait comment se heurtait contre lui. Hein. Quand vous vous heurtez, vous heurtez, vous n'êtes pas. Vous ne frappez pas. Quand vous vous heurtez, c'est vous touchez, vous effleurez, on va dire. Vous heurtez quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de très violent. Et en effet, l'Égypte a fourni une certaine résistance contre l'armée de la France, mais ce n'était qu'un heurte. La France était en train de tout prendre, de tout englober. Avec Napoléon Bonaparte à sa tête, l'armée française se saisissait du territoire de l'Égypte. Nous lisions que le roi du Midi se heurtera contre lui, se heurtera contre les Français. Lui. Et quoi d'autre? Et le roi du Nord fondra sur lui. Et là, nous voulons savoir qui est ce roi du Nord? J'aurais pu commencer l'étude au verset 1 de Daniel chapitre 11, mais on va ici commencer par là et voir que même en commençant par ce verset 40, nous pouvons avoir directement cette réponse. Parce que le 1er au 3 août, la flotte française a été détruite par les Anglais. Hein? Napoléon avait laissé sa flotte dans ses ports d'Égypte, mais l'Angleterre avait commencé sa poursuite de la France lorsque les Français avaient quitté le port de Toulon, et ensuite ils ont réussi à les rattraper finalement au début août lorsqu'ils ont détruit la flotte la majeure partie de la flotte française. Et ensuite, le 2 septembre de la même année, le sultan de la Turquie déclare la guerre à la France. Qui est ce roi du Nord? C'est intéressant parce que, en réalité, ce roi du Nord nous est présenté au tout début où il est question de cette division du royaume d'Alexandre le Grand, parce que lorsque Alexandre le Grand est mort, son royaume a été divisé en quatre parties, et très vite, la partie de l'ouest et la partie de l'est s'est amalgamée avec la partie du nord, et la partie du sud a toujours été la même, c'était l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est très facile parce que lorsqu'il est question de ouest, est, nord, sud, lorsque la parole de Dieu utilise ce langage, il s'agit toujours de cette direction à partir de la Palestine. Parce que la Palestine est le cœur central de la parole, de tous les événements, de la grande majeure partie des événements relatés dans la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'il est question du sud, c'est sud de la Palestine. Et au sud de la Palestine, qu'y a-t-il? Nul autre que l'Égypte. Et au nord de la Palestine, qu'y a-t-il? Bon, vous avez le Jourdain, ensuite vous avez la Syrie, mais le vrai point important, c'est la Turquie. Le roi du Nord, c'est la Turquie. Et d'ailleurs, c'était précisément ce qu'était le roi du Nord, le royaume du Nord, après la mort d'Alexandre, c'était l'Asie mineure, ou plutôt plutôt la puissance qui détenait le territoire de l'Asie mineure, cela a toujours été le royaume du Nord. Et ici, dans Daniel chapitre 11, à la fin de ce chapitre, au verset 40, le roi du Nord revient. Mais comment revient-il? Il revient parce que les Anglais ont incité le sultan contre les Français et en conséquence, le sultan de la Turquie a déclaré la guerre à la France. Pourquoi? Parce que tous ces pays de l'Égypte et tout étaient normalement des vassaux de cet ancien empire ottoman. Et donc, la Turquie maintenant déclare la guerre à la France. Il est écrit au verset 41, il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Et donc, au début, Napoléon avec ses armées sont montés vers la Syrie pour s'assujettir toutes ces terres-là. Mais très bientôt, les Anglais ont envoyé une flotte vers là où il était, je crois que c'était Saint-Jean d'Arc, d'Acre. Et puis les Français ont été forcés de rebrousser chemin, ils ont dû déclarer défaite et sont repartis vers l'Égypte. Et en repartant vers l'Égypte, les Turcs sont partis, à leur recherche, on va dire, et donc ont traversé tout ce territoire que les Français avaient déjà traversé, mais cette fois-ci vers le sud. Et verset 41, nous lisons, et donc les Turcs ont marché sur les terres qui venaient d'avoir été assujetties par l'armée française, et seuls les territoires au sud et à l'est de la mer Morte leur ont échappé, parce qu'il était écrit, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Donc cela n'était pas parce que ça n'était, il n'était pas, ces pays n'étaient pas dans la portée de leur campagne dévastatrice depuis la Syrie jusqu'à l'Égypte. Et maintenant, verset 42, il est écrit qu'il étendra sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Et pour faire très court, Uriah Smith nous disait qu'il s'agit très clairement, encore une fois, du roi du Nord, parce que au verset 41, il s'agit du roi du Nord, et ensuite au verset 42, il s'agit encore du roi du Nord, et ce que cela veut dire, c'est que les Turcs, avec le soutien militaire des Anglais, ont repris possession de l'Égypte, quoique les Égyptiens auraient voulu échapper à la domination turque parce qu'ils préféraient l'occupant français. Mais ils n'ont pas échappé, et il était écrit que le pays d'Égypte n'échappera point. Mais à la place de cela, nous lisons qu'il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et nous pouvons comprendre cela parce que le sultan a permis à l'Égypte de reprendre leur gouvernement comme ils l'avaient avant l'invasion française, mais qu'ils les ont mis aux tribus. Donc ils devaient maintenant payer au sultan de la Turquie le tribut. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Ensuite, le verset 44, nous lisons que, après cela, des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, le roi du Nord, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Et c'est intéressant parce que le commentateur Adam Clark, un des grands commentateurs de biblique, il écrivait en 1825 que ce verset 44 n'avait pas encore trouvé son accomplissement. Parce qu'il s'attendait à ce que ce verset trouve son accomplissement par une action de la part de la Russie et des Perses. Parce qu'il était écrit, des nouvelles de l'Orient ou de l'Est et du Nord viendront le troubler, à savoir le roi du Nord, et ce qui le ferait sortir avec une grande fureur Et notez bien, ça c'est ce que Adam Clark il avait dit en 1825. Et en 1853, la guerre de Crimée a éclaté. Et c'était précisément une réaction directe de la Turquie aux offensives, on va dire, de la Russie et des Perses. Exactement ce qu'Adam Clark il avait dit que ça serait, parce qu'en lisant la prophétie, en lisant, juste en faisant fonctionner la logique par rapport à ce qui avait déjà trouvé un accomplissement dans les versets précédents, il a dit ce sera la Russie et les Perses. Et c'était exactement cela, sauf que le conflit a eu lieu tout particulièrement entre la Turquie et la Russie dans la guerre de Crimée. De 1853 à 1856. Et donc, il est sorti avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens, ce qui était un fait très, très étonnant alors parce que on appelait la Turquie l'homme malade de l'Orient parce que c'était considéré comme une puissance prête à succomber. Mais quand même, il s'est énervé. Et les Anglais disaient que ils se sont battus comme des diables. La guerre de Crimée. Donc clairement ici, nous voyons exactement de quoi il s'agit. Du verset 40 au verset 43, il s'agissait indéniablement de cette expédition de Napoléon en Égypte, ensuite de son expédition pour la Syrie, ensuite de son retrait vers l'Égypte et de on va dire, de la campagne dévastatrice de la Turquie depuis le nord à travers la Syrie et jusqu'aux portes de l'Égypte. Après quoi, la Turquie, avec l'aide des Anglais, a repris possession de l'Égypte. Et comme c'est écrit au verset 42 et au verset 43, c'est rendu maître de ces territoires à travers le tribut. Et ensuite, le verset 44, nous venons de voir à travers à la fois une anticipation prophétique de Adam Clark en 1825 et l'accomplissement logique et historique en 1853 à travers la guerre de Crimée qui comprenait la puissance turque et la puissance russe. Et maintenant le verset 45. Le verset 45. Il est écrit « Il, toujours au sujet de ce roi du Nord, toujours au sujet de ce roi du Nord que nous avons vu être la Turquie depuis le verset 40. Il fera quoi ? Cette fois-ci, après cela, le dernier événement du verset 44 était en 1856, après que la guerre de Crimée ait pris fin. Maintenant, nous retrouvons face à ce dernier verset 45, où il est écrit que « Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. » Oh. De quoi s'agit-il ici, mes frères et sœurs? Il est question indéniablement du roi du Nord qui, nous avons vu, n'est autre que la Turquie. Et vous voyez ici le parallèle parce qu'il était décrit dans Apocalypse chapitre 16 verset 12 que le fleuve de l'Euphrate serait asséché. Les eaux du fleuve de l'Euphrate seraient asséchées. Et le lien est directement fait ici parce que nous lisons que il viendra à sa fin. Et personne ne lui donnera de secours. À savoir, aucune des puissances de l'Europe ou même l'Angleterre ne viendra l'aider à ce moment-là. Personne ne lui donnera de secours, il viendra à sa fin, sa gloire se tarira, le fleuve, les eaux de son fleuve seront asséchées. Mais avant que cela arrive, Qu'est-ce qui est l'élément? Hein, nous en revenons au début de notre méditation où je vous ai posé la question. J'ai dit quel sera le signal par lequel l'étudiant des prophéties pourra reconnaître la fin du temps de grâce. Hein? Parce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 21 que pendant cette année, cette année littérale et cette journée prophétique du temps de détresse, toute la Kédar et toute sa gloire prendraient fin. Mais nous ne voulons pas savoir quand est-ce que Kédar prendra fin, nous voulons savoir ce qui est avant cela. Parce que lorsque Kédar prend fin, c'est trop tard, mes frères et sœurs. Parce qu'il est écrit au chapitre 12, verset 1, Daniel chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là, hein, en ce temps-là, lorsqu'il vient à sa fin, lorsque le roi du Nord vient à sa fin, lorsque le fleuve de l'Euphrate est asséché, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le roi du Nord vient à sa fin, lorsque le fleuve de l'Euphrate est tari, ce qui prépare la voie pour les rois de l'Orient et les rois de toute la terre qui vont venir être rassemblés au lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon? Qu'est-ce que ce sera qui se passe lorsqu'il vient à sa fin? Michaël se lèvera. Nous savons à travers notre étude de la prophétie, de la parole de Dieu et des prophéties que Michaël, ce n'est autre que le chef des anges qui n'est autre que Jésus. Parce que c'est lui qui est le chef de l'armée des anges. Et d'ailleurs, nous le voyons parce que dans Apocalypse chapitre 19, il est question que c'est lui qui est à la tête des armées du ciel. Donc c'est très clair. Michaël, c'est le grand chef. Qui fait quoi? Qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Qui fait quoi? Qui, dans le lieu très saint, est en train d'intercéder en faveur du pécheur. Qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Qui est présent pour intercéder. Présent pour consoler. Présent parce qu'il envoya son esprit. Présent parce qu'il intercède dans nos cœurs. Et qu'il se tient devant le Père en tant que médiateur entre Dieu et l'homme. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur et c'est Jésus-Christ. Il tient ferme pour eux. Il tient ferme pour nous. Mais lorsque le roi du Nord vient à sa fin, qu'est-ce que se passe-t-il avec lui? Il se lève. Et cette expression « il se lève », c'est très significatif dans la parole de Dieu. Cela veut dire que lorsque un roi se lève, ça veut dire qu'il prend le royaume. Et lorsque le Jésus se lève, c'est-à-dire qu'il prend le royaume, ou plutôt, il passe du royaume de grâce au royaume de gloire. Seulement dans le royaume de gloire, il n'y a plus d'intercession. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et donc, toute l'importance qui est renfermée dans ce verset 45 de Daniel chapitre 11. Il est écrit que « il, le roi du Nord, la Turquie, dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. » Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Les tentes de son palais. Quel est son palais? Son palais, n'est-ce pas le lieu de le centre de son gouvernement? Et lorsqu'il s'agit de tente, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un peu comme un quartier général temporaire. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que cela veut dire entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte? Entre les mers? Où est-ce qu'il y a un endroit dans la géographie proche de la Turquie où un lieu se trouve entre deux mers? Réfléchissez brièvement. N'est-ce pas Jérusalem, entre la mer méditerranéenne et la mer morte? N'est-ce pas cela, mes frères et sœurs? Entre la mer morte et la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce que le roi du Nord fera selon la prophétie? Pas selon vos idées, pas selon vos suppositions, pas selon vos imaginations, selon la parole prophétique du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fera? Il dressera les tentes de son palais où? Plus à Constantinople, qu'on appelle aussi Istanbul, plus là. Il les déplacera. C'est ça que cela veut dire. Il déplacera le quartier général de son gouvernement pour le mettre où? Pour le mettre où? Entre les mers. Où? Vers la montagne glorieuse et sainte. Quelle autre montagne glorieuse et sainte y a-t-il dans la parole de Dieu qui puisse faire référence à un lieu? Ce n'est autre que la montagne de Jérusalem. Et c'est précisément ce que la Turquie et de nombreux autres pays qui font d'ailleurs partie de cette fameuse organisation de coopération islamique ont souvent dit et exprimé, à savoir que ce fameux lieu où il y a cette fameuse grande mosquée qui se trouve au lieu où se trouvait avant le temple juif, ils disent que ce lieu-là appartient aux Arabes. Ils disent que ce lieu-là, c'est le lieu où devrait être le cœur du monde arabe. Pour eux, c'est ça que ça veut dire. Et c'est précisément l'objectif de ces personnes-là qui ont à cœur de raviver l'ancien empire ottoman. Et donc la parole de Dieu nous présente ici comme l'élément déclencheur du grand temps de détresse et des dernières plaies, sept dernières plaies, comme le temps où la Turquie déplacera le quartier général temporaire de son gouvernement depuis Ankara, là où il est aujourd'hui, vers et à et dans Jérusalem, hein, vers la montagne glorieuse et sainte. Après quoi, que se passera-t-il? Il viendra à sa fin. Et en ce temps-là, Michael se lève, qui aujourd'hui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. Un temps de détresse sans précédent. Et donc voilà, frères et sœurs, ce sont et ce sera le dernier présage d'Armageddon. Qu'est-ce que c'est? La fuite de la Turquie vers la Palestine. Ensuite, l'assèchement total du fleuve de l'Euphrate qui prépare la voie pour les rois de l'Orient, hein, à l'est et au nord. Si vous tracez une ligne verticale à la Palestine, tout ce qui est à droite, ça peut être les rois de l'Orient, ça peut très bien, très très probablement comprendre la Russie, l'Iran, le Pakistan, toutes les puissances à l'est de cela. On pourrait aller plus loin encore, la Chine, l'Inde. C'est l'élément déclencheur qui ouvre la voie vers les dernières destructions et vers la bataille littérale et militaire d'Armageddon. Mais nous, frères et sœurs, nous voulons considérer ces choses pour savoir où regarder et pour ne pas perdre du temps à parler de la papauté. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ils enseignent, beaucoup d'adventistes enseignent que ces versets 40 au 45, à 45, subitement, ce n'est plus des lieux géographiques, c'est une expression symbolique pour laquelle eux, ils ont l'interprétation, et ils disent que le roi du Nord, c'est l'Église catholique. Comment ils arrivent à cela, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu comprendre aujourd'hui l'explication qui fait du sens, afin que nous puissions non pas être confus, mais que nous puissions être guidés et que nous puissions ne pas perdre du temps dans des interprétations qui ne font pas de sens, mais nous concentrer sur celles qui font du sens, que le Seigneur nous a fournies, afin que nos esprits soient focalisés sur l'œuvre qui doit accaparer toute notre attention, celle de la préparation de notre caractère. Mais la prophétie, c'est important parce que nous avons besoin d'une lumière dans l'obscurité. La prophétie, c'est important parce que c'est la prophétie de Dieu. Et il l'a donnée, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous la comprenions, pour que nous nous en saisissions et que nous sachions où nous nous trouvons présentement, afin que nous puissions avoir une vision. Et que, fort de cette vision-là de l'avenir, nous nous préparions pour traverser ce temps de détresse, afin que, comme il est écrit au chapitre 12, verset 1, que nous puissions aussi échapper. Que nous puissions échapper. Comme Jésus a dit, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à ces choses qui vont survenir sur la terre. C'est ma prière, frères et sœurs, que le Seigneur nous fortifie, afin que nous nous approprions ces paroles, ces révélations, et que nous en fassions un bon usage à la gloire de Dieu et pour notre préparation et celle des âmes. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse conjointement dans la réjouissance que nous avons de savoir que nous n'avons pas été laissés dans l'obscurité, mais que le Seigneur nous a bel et bien donné la lumière au temps présent, la nourriture au temps convenable, afin que nous sachions où le Seigneur nous guide et que nous sachions aussi diriger les autres. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Amen.